France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
À Gaza, la mise en œuvre du plan Trump reste extrêmement fragile. Dernière preuve en date dimanche, la reprise des bombardements qui a coûté la vie à 45 Palestiniens suite à la mort de deux soldats israéliens dans une explosion attribuée au Hamas. Malgré cet accord, donc, les défis sur le terrain restent immenses, les incertitudes nombreuses. Alors comment faire cesser véritablement les affrontements et à terme, comment dessiner les contours d'une souveraineté palestinienne entre supervision internationale, contrôle israélien et présence persistante du Hamas? Le cessez-le-feu marque-t-il le début d'un véritable processus de paix? Une invitée ce soir pour nous éclairer, Laetitia Bucaille, bonsoir.
Bonsoir Quentin Laffaire.
Vous êtes professeur de sociologie politique à l'INALCO, chercheuse au Centre d'études sur les mondes africains, américains et asiatiques, membre senior de l'Institut universitaire de France, et vous faites paraître cet ouvrage aux éditions Stock intitulé « Gaza, quel avenir ?». Merci d'être avec nous ce soir dans Questions du soir.
Ça suffit, nous avons souffert pendant 2 ans, nous voulons nous reposer. Mais maintenant, nous dormons dans la crainte des bombardements malgré leur affirmation de trêve. On voit qu'il n'en est rien.
Il y a les zones jaunes où l'entrée est interdite. Et il y a les zones dangereuses où il est autorisé d'aller. Beth Hanoun, Shejaya, Beth Laya sont dangereuses. Impossible d'y retourner. On doit attendre que Dieu nous facilite les choses.
Témoignage de 2 Gazaouis récoltés par TV5 Monde. Laetitia Bucaille, Benjamin Netanyahou a affirmé hier qu'Israël avait largué 153 tonnes de bombes sur la bande de Gaza dimanche malgré le cessez-le-feu. Est-ce que cette notion-là, celle de cessez-le-feu, a encore du sens alors qu'il est ?
Oui, elle a encore du sens parce que malgré tout, Trump tient beaucoup à son opération de paix, à son plan de paix qu'il trouve formidable.
Et cela suffit ?
Cela ne suffit pas, mais je pense qu'il va insister pour que le cessez-le-feu se prolonge. Alors ce cessez-le-feu ne sera sans doute pas parfait. On peut penser qu'il y aura d'autres incidents meurtriers notamment pour les Palestiniens. Et on ne peut pas être sûr non plus que ça débouche sur une véritable paix. Ça risque plutôt de déboucher sur une forme de pacification qui donne une apparence de calme, de sécurité peut-être pour les Israéliens, mais quant à changer la vie des Palestiniens et réparer la vie des Palestiniens de Gaza, c'est une autre paire de manches.
Voici ce que vous écrivez notamment dans cet ouvrage intitulé « Gaza, quel avenir ?» point d'interrogation. Jusque-là, la question des otages agissait comme un verrou psychologique. Leur libération permettrait d'effriter l'indifférence d'une partie de la société israélienne au calvaire des Gazaouis. Les 20 derniers otages ont été libérés la semaine dernière alors qu'ils vivaient détenus par le Hamas. Est-ce que la donne change profondément aujourd'hui, notamment en vue de maintenir vivant ce cessez-le-feu?
Alors, ça va probablement prendre un peu de temps. D'abord parce que le retour des otages, c'est d'abord l'écoute des otages et de leur récit terrible de captivité.
Il ne suffit pas de les rendre et de les libérer.
Ça ne suffit pas. Sans doute, ça continue de distiller chez les Israéliens cette image du Hamas, voire des Gazaouis, c'est bien le problème, comme coupable, cruel et infréquentable et qu'il faut absolument contrôler de la manière la plus stricte qui soit. Et puis l'autre chose qui va aussi agir comme un frein, c'est que malgré tout, même si l'on voit qu'il y a eu 40 de morts à Gaza et que sans doute les conditions de vie continue d'être extrêmement pénible à Gaza et que des gens continuent de mourir à cause des conséquences de la guerre, de l'état du dispositif de santé et du manque de vivre à Gaza. En même temps, dans l'esprit certainement de beaucoup d'Israéliens, la guerre s'est arrêtée. Donc, de quoi devraient se plaindre les Palestiniens si la guerre s'est arrêtée?
Selon eux, hein?
Selon eux, bien entendu. Ça risque d'être leur perception. Donc, je pense que la prise de conscience des dommages infligés à Gaza, aux Gazaouis, du nombre d'orphelins que l'on a causés, du nombre de mutilés, du nombre de morts, des conditions de mort des gens qui ont agonisé sous les décombres de leur maison, de leur immeuble. Je pense que ça prendra un peu plus de temps que voilà, la libération des otages. Mais sans doute, ça va quand même permettre aux Israéliens de penser à autre chose que à exiger cette libération des otages. Et sans doute aussi, ce qui sera décisif dans cette prise de conscience, c'est lorsque les Israéliens vont réussir, parce que sans doute quand même, ils vont obtenir ça à un moment donné, de demander des comptes à leurs gouvernants, notamment à Benjamin Netanyahou, aux responsables des services de sécurité, mais les responsables de l'armée des services de sécurité ont démissionné, ont déjà un petit peu fait leur mea culpa. C'est pas le cas de Netanyahou, mais un jour, il y aura bien une commission d'enquête sur ce qui s'est passé le 7 octobre, et peut-être aussi sur ce qui s'est passé pendant la guerre. Et là, l'heure des comptes ouvrira aussi cette boîte-là, qui est la boîte de qu'a-t-on fait à Gaza.
Je reviens un instant, Laetitia Bucaille, sur cette question, cet enjeu des otages. Le Hamas a annoncé aujourd'hui qu'il rendrait ce soir deux dépouilles d'otages à Israël. Pourquoi cette question des dépouilles demeure absolument fondamentale pour la société israélienne et plus encore, j'allais dire, pour le maintien de ce cessez-le-feu ?
Eh bien, d'une part, la question de la restitution des morts est très importante pour les Israéliens depuis toujours. Dans la religion juive, c'est une exigence de pouvoir enterrer ses morts. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est évidemment que le gouvernement israélien et Netanyahou, qui n'a pas forcément envie de se cesser le feu, ou en tout cas pas dans ces conditions-là, a intérêt à attirer l'attention sur le fait que le Hamas ne serait pas véritablement coopératif, ne respecterait pas le cessez-le-feu, et qu'il montrerait de la mauvaise volonté et ne restituerait pas le corps des otages. Alors, en réalité, peut-être que le Hamas joue un petit peu avec ça, peut-être qu'il considère que c'est une des dernières cartes, même si son levier principal, qui était les otages vivants, il a perdu ce levier-là en acceptant la partie de cet accord. Bon. En tout cas, on peut raisonnablement croire que c'est compliqué de retrouver certaines dépouilles dans la bande de Gaza telle qu'elle est devenue, avec plus de 80% de destruction, probablement aussi des chefs, des responsables du Hamas qui détenaient les otages, qui sont morts eux-mêmes, et donc on ne sait pas forcément où sont les corps. Enfin, y a plein de conditions objectives qui rendent ce travail de recherche difficile.
La voix du président américain Donald Trump, il s'exprimait hier sur le cessez-le-feu Israël-Hamas. On lui posait la question de savoir si ce cessez-le-feu était menacé.
Opération désescalade. Trump veut sauver son plan pour Gaza après les premières violations sérieuses de cessez-le-feu.
Nous voulons nous assurer que tout se passera calmement avec le Hamas. Et comme vous le savez, ils ont été assez turbulents. Ils ont tiré des coups de feu. Et nous pensons que les dirigeants ne sont peut-être pas impliqués dans ces actes, mais plutôt que ce sont des rebelles au sein du mouvement. Mais quoi qu'il en soit, la situation sera gérée correctement, fermement mais correctement.
Le cessez-le-feu est toujours en vigueur ?
Oui, il l'est.
Avant d'entrer, Laetitia Bucaille, dans les détails de ce plan pour Gaza signé Donald Trump, une question, est-ce que Donald Trump a même une stratégie pour Gaza ? Est-ce qu'il a une stratégie pour les Gazaouis, pour les Palestiniens en général, ou s'agit-il seulement pour lui-même de cocher cette case d'une paix supplémentaire pour décrocher peut-être un jour un prix Nobel ?
Oui, alors c'est toujours compliqué de décoder la rationalité de Donald Trump, mais je crois qu'il y a quand même une stratégie qui ne rentre pas forcément dans le logiciel des Palestiniens et des habitants en particulier de Gaza ou de Cisjordanie. Mais je crois que l'idée de Trump, c'est de résoudre ce problème par l'économie, par le business. Et de penser que ça va pouvoir assainir les relations, que tout le monde fera plus ou moins de l'argent. Enfin, en même temps, on peut se douter qu'il y en a certains qui en feront beaucoup plus que d'autres, que c'est pas forcément les Gazaouis qui profiteraient de l'argent de l'immobilier. Mais on sait combien il est fixé hein, sur cette stratégie de l'immobilier. Il semble que, évidemment, tout est à reconstruire à Gaza. Donc, on peut penser que c'est ça qu'il veut mettre en avant et qu'il pense que ça va permettre d'apaiser les relations entre les différents protagonistes et permettre de dégager de l'argent. Après, toutes ces questions de savoir si la reconstruction, ça conviendrait aux Gazaouis, le mode d'habitat, etc., ça, c'est pas du tout son problème. Même, il y a cette espèce de fantasme de ville moyen-orientale, futuriste, comme telles que les ont imaginé les Saoudiens, bon, qui correspond pas forcément tellement à la réalité de la bande de Gaza. Et puis, ça permet de faire d'autres choses, parce que on a bien vu que les Israéliens sont beaucoup, ont beaucoup accusé l'UNRWA de complicité avec le Hamas. Ils se sont aussi beaucoup acharnés sur les camps de réfugiés. Mmh. Bon, c'est un moyen, en fait, hein, d'effacer les camps de réfugiés, la question des réfugiés, l'UNRWA, et donc d'effacer le passé, d'effacer la dette israélienne à l'égard des Palestiniens.
Pour promouvoir, Laetitia Bucaille, cette vision économique de la bande de Gaza, cette vision même immobilière, Donald Trump a pensé un mode de gouvernance, hein, une organisation dirigée par Tony Blair, présidée par lui-même. Comment est-ce que vous analysez justement cette architecture qui viendrait organiser l'avenir de la bande de Gaza ?
Alors, c'est encore un peu flou, ça promet d'être un millefeuille assez complexe. Alors effectivement, avec tout en haut Donald Trump et Tony Blair, probablement des forces militaires ou civiles égyptiennes, turques. Alors les Gazaouis pourront apprécier le fait d'avoir à la fois un Britannique, des Turcs et des Égyptiens hein, qui ont chacun à leur tour gouverné la bande de Gaza, enfin une partie de la Palestine et la bande de Gaza pour l'Égypte. Avec donc des forces militaires qui seront censées contrôler les Palestiniens, empêcher que des forces hostiles se manifestent, et puis faire tampon avec Israël. Israël continuerait quand même à contrôler la sécurité de la bande de Gaza. Enfin, tout ça va être très compliqué à mettre en place, et il risque quand même d'y avoir des frictions entre les uns et les autres. Et puis, il y a un problème d'acceptabilité à trois niveaux. C'est-à-dire que, d'abord, il faut que les Israéliens acceptent d'avoir des Égyptiens de l'autre côté de la barrière. Alors, les Égyptiens, ils ont à peu près confiance en eux. En revanche, les Turcs, ils ont des difficultés. Ils ne font pas confiance aux Turcs ni aux Qataris, qu'ils estiment être des alliés du Hamas. Il y a le problème de l'acceptabilité des Palestiniens. Est-ce que les Palestiniens ne vont pas tout simplement percevoir toutes ces forces comme des forces étrangères d'occupation qui les empêchent de réaliser leurs aspirations nationales, encore une fois? Et puis, il y a la question de l'acceptabilité en interne, parce que les Turcs, les Égyptiens, les Qataris, l'opinion publique des pays arabes et musulmans, elle est très pro-palestinienne. Donc si ces forces apparaissent comme des forces d'occupation, ça risque aussi de créer des problèmes à ces gouvernements en interne.
Extrait, Laetitia Bucaille, d'un article signé Hakim El-Karoui qui a paru il y a quelques jours dans la revue en ligne Le Grand Continent. Hakim El-Karoui écrit « Le plan Trump traduit une vision de la paix issue de la droite israélienne qui considère que la paix n'adviendra que le jour où Israël sera suffisamment fort pour imposer ses conditions. Cette proposition, comme le plan Blair, disent la même chose. Gaza sera un protectorat américano-israélien golfiote avec Tony Blair comme cheville exécutive et un gouvernement local transformé en conseil d'administration de Gaza. » Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ?
Oui, enfin, c'est une façon aussi pour Israël de se décharger du coût de la gestion de la bande de Gaza. Parce que c'était une véritable question, c'est-à-dire...
Du coup politique ou du coup économique en priorité ?
Du coup politique, sécuritaire, et de ce que ça coûte en argent, mais ce que ça coûte en hommes, surtout d'envoyer des hommes, des soldats contrôler Gaza, et de risquer des morts. Donc en fait, confier la gestion de Gaza à d'autres forces, si on peut leur faire confiance, c'est un bénéfice pour Israël de ne pas se charger directement et puis de ne pas être montré du doigt comme un État occupant, contrôlant la bande de Gaza. Ça peut être tout à fait un avantage. Mais on peut quand même penser raisonnablement que les choses vont pas se passer si facilement que ça sur place, ni à l'intérieur de Gaza, ni entre Israël et ses forces qui viendraient contrôler Gaza.
Est-ce qu'il vous paraît possible, crédible, Laetitia Bucaï, d'intégrer aujourd'hui les Gazaouis, les Palestiniens, dans la gouvernance de Gaza telle qu'elle est imaginée par Donald Trump et les affiliés à ce plan pour Gaza? Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait imaginer, par exemple, que des élections soient organisées pour permettre aux Gazaouis de décider de leur avenir et de leur propre sort?
Oui, on peut l'imaginer. De toute façon, on sera quand même bien obligé d'organiser des élections en Palestine à un moment donné, à court ou peut-être plutôt moyen terme. Et puis, on peut imaginer aussi que ces forces internationales vont faire un petit effort pour intégrer des Palestiniens à cette forme de gouvernance, ou faire semblant d'avoir des Palestiniens avec eux, pour donner un minimum de légitimité et essayer d'obtenir l'assentiment, l'adhésion des Palestiniens sur place. Parce que si les Palestiniens les rejettent complètement, ça va quand même être un problème pour eux. Il va falloir quand même convaincre sur place que cette force de ce gouvernement, cette administration est là pour le bénéfice des Palestiniens, d'une façon ou d'une autre.
Voilà ce que vous écrivez encore dans l'ouvrage qui vient de paraître, intitulé « Gaza, quel avenir ?» C'est aux éditions Stock. Vous écrivez « La possibilité de gouverner et de reconstruire Gaza dépendra des moyens mis à disposition. Une direction palestinienne ne pourra reposer uniquement sur des moyens propres. L'effort fourni par la communauté internationale, en particulier celui des pétromonarchies du Golfe, sera décisif. » Quel rôle alors devraient jouer aujourd'hui ces pétromonarchies du Golfe?
Elles peuvent à la fois protéger les Palestiniens de nouvelles attaques israéliennes. Elles peuvent.
C'est leur intention?
Elles ont intérêt à ce que la guerre cesse, ne serait-ce que pour vis-à-vis de leur opinion publique. Si elles-mêmes sont intéressées par les accords d'Abraham, elles ont intérêt à ce que la paix arrive aussi pour pouvoir justifier et faire aboutir ces accords. Elles ont intérêt aussi à ce qu'Israël soit pas trop puissant. C'est-à-dire que on sait qu'il y a des intérêts communs partagés entre Israël et l'Arabie Saoudite depuis quelques années, et ce qui explique notamment le rapprochement. La principale cause de ce rapprochement, c'était cet adversaire iranien commun. Mais à partir du moment où Israël s'est montré tellement ambitieux, offensif dans la région, à la fois à Gaza, en Cisjordanie, mais aussi au Liban, en Syrie, en Iran et jusqu'au Qatar dernièrement, les pétromonarchies ont considéré que ça allait quand même un peu loin et que si Israël pouvait jouer un rôle d'équilibre, il fallait pas non plus que Israël devienne trop puissant. C'est pas leur intérêt. Donc leur intérêt, c'est quand même de calmer le jeu, d'avoir une solution pour la question palestinienne. Alors peut-être que ces États, enfin sans doute ces États ne seront pas très exigeants dans la formule politique. C'est-à-dire qu'en fait, en définitive, à un moment donné, on pourra avoir un État palestinien qui n'aura peut-être d'État que le nom, en réalité. Et il est probable qu'un certain nombre des pays de la région, y compris ceux qui se présentent comme des parrains des Palestiniens, se contentent d'un pseudo-État palestinien.
Vous évoquiez un peu plus tôt, Laetitia Bucaï, dans notre discussion, la triple acceptabilité, celle de la société israélienne, celle des sociétés arabes et musulmanes, celle enfin du peuple palestinien. Et dans votre livre, vous expliquez bien que cette acceptabilité palestinienne se fondera notamment sur l'efficacité sur le terrain pour participer à la lourde tâche de la reconstruction. Il faudra donc être efficace pour reconstruire, c'est de cela que dépendra l'acceptabilité, encore une fois, des Palestiniens aujourd'hui?
Pas seulement, mais dans un premier temps, le fait de fournir des besoins essentiels aux Palestiniens se pose. C'est-à-dire que quand même, il faut que les Palestiniens puissent dormir sous des toits, il faut qu'ils puissent se soigner, il faut qu'ils puissent se nourrir. Et ça, c'est des urgences. Et donc, la première tâche d'un gouvernement, c'est d'assurer la sécurité de ces ressortissants, mais c'est aussi de leur permettre moyen d'accéder à des, à des besoins essentiels.
On sait que les enjeux sont par ailleurs colossaux, ne serait-ce que déblayer l'immensité des gravats. C'est un défi encore difficilement concevable sur le plan logistique.
Tout à fait, tout à fait. Et on peut d'ailleurs penser que les conséquences sur l'environnement vont être durables et absolument très, très graves, hein, puisque sans doute une partie de ces décombres vont finir dans la mer. Oui, alors il y aura certainement du mécontentement. Enfin, d'ailleurs, on a entendu quelques témoignages de Gazaouis qui non seulement ont peur de la reprise des bombardements, mais enfin qui constatent aussi que leur vie n'est pas une vie. Donc la question se reposera aussi sans doute de l'exil des Palestiniens. On sait qu'il y a beaucoup de Gazaouis qui, malgré tout leur attachement à leur terre et leur foi dans la nation palestinienne et leur souhait de voir un jour un État palestinien, choisiront peut-être de partir pour l'avenir de leurs enfants.
On a parlé durant cette discussion, Laetitia Bucaille, de Gaza comme s'il s'agissait de la Palestine tout entière. Il y a évidemment l'autre part palestinienne, c'est-à-dire la Cisjordanie. Comment connecter ces deux enjeux, c'est-à-dire aujourd'hui la reconstruction de Gaza et la colonisation qui s'accélère de mois en mois, de semaine en semaine en Cisjordanie?
Oui, alors les pays du Golfe ont quand même réussi à imposer, est-ce que ça durera, c'est pas sûr, mais à imposer le fait qu'Israël n'annexe pas la Cisjordanie. Alors, en même temps, sur le terrain, ça change pas grand-chose pour le moment, puisque ce qui se passe, effectivement, c'est l'extension des colonies, et puis surtout la grande agressivité des colons. Donc, le premier problème à résoudre, hein, c'est, encore une fois, c'est la sécurité des Palestiniens qui vivent en Cisjordanie, c'est-à-dire les protéger des attaques des colons, les protéger aussi des attaques de l'armée israélienne. C'est avant même de penser à un État, une souveraineté, etc., c'est la sécurité individuelle et collective des Palestiniens en Cisjordanie.
Sur la gouvernance et sur l'avenir démocratique de la Palestine, quel rôle peut jouer, c'est toujours un serpent de mer cette question, quel rôle peut jouer l'autorité palestinienne? Au fond, est-ce qu'elle-même, elle peut jouer un rôle quelconque?
C'est difficile. C'est-à-dire que le problème de l'autorité palestinienne, on dit beaucoup qu'elle est usée, corrompue, etc. Enfin, le véritable problème de l'autorité palestinienne, c'est pas tellement qu'elle est corrompue, c'est en fait qu'elle n'a pas de pouvoir. C'est qu'elle est...
Et de légitimité.
Elle n'a pas de légitimité du fait qu'en fait, elle est totalement impotente. Sa population lui reproche de n'être là que pour faire de la coopération sécuritaire avec Israël et d'être incapable de la prendre en charge et de répondre aux aspirations nationales, incapable de la protéger face aux violences des colons et de l'armée. Donc c'est compliqué, et c'est encore plus compliqué après que le Hamas ait accompli le 7 octobre, qui est apparu à une partie des Palestiniens, essentiellement de Cisjordanie, comme un exploit. Malgré les atrocités, c'est apparu comme, tout d'un coup, un déploiement de puissance qui contrastait sévèrement avec l'autorité palestinienne. Donc, il faudrait... on ne peut pas s'en sortir s'il n'y a pas d'élection. Ce qu'il faudrait, c'est des élections palestiniennes. On élit un nouveau président d'une entité palestinienne et puis des députés, des représentants palestiniens. C'est le chemin pour s'en sortir, pour accéder à une représentation palestinienne. On se doute bien que ce pauvre Mahmoud Abbas ne va pas tenir la route à récupérer Gaza, ce n'est pas possible.
En quelques mots, par ailleurs, Laetitia Bucaille, que faire du Hamas? Il y a un consensus aujourd'hui international pour dire qu'il faut absolument faire sans, qu'il faut l'exclure de la moindre élection, de la moindre gouvernance. Comment organiser cela?
Oui, ça va être compliqué. Alors, parce que quand même, une chose auquel le Hamas tient, c'est de rester en place. Alors peut-être qu'il consentira à se défaire de ses armes ou à geler ses armes, comme il le dit, hein, je ne sais pas, à les mettre de côté et à oublier la résistance armée, je le mets entre guillemets, pendant quelques années, voire pour toujours, pourquoi pas. Mais il ne renoncera pas à jouer un rôle politique. Alors effectivement, à quelles conditions est-ce qu'un Hamas serait acceptable pour jouer un rôle politique? Alors, ce qu'il faut voir d'abord, c'est que quand même, les Américains parlent directement avec le Hamas. Hein, donc, le reconnaissent comme interlocuteur. Il semble même que les Israéliens discutent aussi en face à face avec le Hamas. Donc, de fait, c'est devenu un interlocuteur. Bon, étant donné la volatilité de Trump, on peut penser qu'un jour ça finisse complètement. Mais on pourrait imaginer peut-être que le Hamas change de nom, se transforme, prenne un autre nom, voilà, fasse une mue. Mais on a vu ça, par ailleurs, des mouvements armés qui étaient considérés comme terroristes, qui se sont transformés en forces politiques. Mais ils l'ont fait parce qu'ils étaient admis pour jouer un rôle politique dans la formule qui suivait.
Merci beaucoup Laetitia Bucaille de ces éclairages. On recommande par ailleurs la lecture de votre ouvrage qui vient de paraître aux éditions Stock. Il est intitulé « Gaza, quel avenir ?» point d'interrogation. Et merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Roxane Poulain, Léa Vachegrus, Bertie Bourdon à la réalisation. C'était Léa Racine et Jérémy Kaufmann ce soir à la technique.